Voici la revue de presse internationale. Elle est signée Jacqueline Fardel. Bonjour Jacqueline.
Bonjour à tous.
Avec cette question, quelle réparation pour les descendants d'esclaves ?
Le Los Angeles Times nous emmène au 6 rue Chalmers, dans le centre historique de Charleston, en Caroline du Sud. Un bâtiment caché dans une ruelle, des maisons alignées, des fleurs roses, des palmiers. Ici, au milieu du 19e siècle, se tenait une vente aux enchères. La marchandise, des hommes, des femmes et des enfants africains, les meilleurs pouvaient rapporter jusqu'à 1 600 $ à l'époque, 49 000 $ aujourd'hui. Le lieu est devenu un musée. 400 ans après l'arrivée aux États-Unis des premiers Africains réduits en esclavage en 1619, le pays débat sur la réparation financière à offrir à 40 millions de descendants d'esclaves. De nombreux Afro-Américains, nous dit le Los Angeles Times, sont en faveur de réparation, mais disent tout autant qu'ils veulent que le pays comprenne la douloureuse histoire avec laquelle ils vivent chaque jour. Les épreuves et les humiliations ne se sont pas arrêtées avec l'abolition de l'esclavage en 1865. Violence raciste, pauvreté, inégalité. Dans la région de Charleston, 40% des enfants noirs vivent sous le seuil de pauvreté. Beaucoup de choses restent les mêmes, dit une Afro-Américaine de 58 ans arrêtée devant le musée. Ce sont mes parents, ce dont mes parents ont été témoins, c'est ce dont nous sommes témoins en ce moment. Une vie noire n'a pas d'importance. Nous sommes des personnes abîmées, confirme à quelques kilomètres de là Fred Lincoln, 74 ans. Aucun chèque du gouvernement ne peut véritablement rendre compte de siècles d'injustice. Mes ancêtres ont été privés de tout, leur histoire, leur identité, leur culture. Me donner de l'argent est une insulte à leur souffrance. Un chèque que refuse aussi Déas Moore, 70 ans. Sa famille a travaillé dans les rizières environnantes. « Je ne veux pas d'argent, dit-elle. Ce que je veux, c'est que le gouvernement éduque nos enfants pour qu'ils puissent devenir des ingénieurs, des bâtisseurs comme leurs ancêtres et que les Américains regardent en face les torts de l'esclavage. »
Dans la presse internationale également ce matin, l'appel d'une ancienne enfant esclave, Jacqueline.
Nazira Zubtarova, une jeune femme de 33 ans, à la voix douce, les yeux brillants, le sourire. Elle affiche peu de traces de son expérience d'enfant esclave dans les champs de coton d'Ouzbékistan. Son histoire racontée sur le site internet de la chaîne australienne SBS. À 6 ans, Nazira cueillait le coton sous un soleil de plomb avec des milliers d'autres enfants. Un système de travail forcé, non rémunéré, contrôlé par l'État. Nous commencions à travailler tôt le matin pour toute la journée. Je me souviens juste d'avoir eu très chaud, d'être très fatiguée et de devoir m'occuper de mon petit frère. Nazira avait franchi la frontière avec l'Ouzbékistan en 1992 pour fuir le Tadjikistan en guerre. Aujourd'hui, elle travaille à Sydney dans l'administration et espère passer de maîtrise en droit pour s'attaquer au problème de l'esclavage moderne. Ça me rend triste et en colère que quelqu'un d'autre puisse simplement vous priver de vos droits, vous priver de la vie, faire ce qu'il veut avec vous. Aujourd'hui, selon Global Slavery Index, 40,3 millions de personnes sont asservies dans le monde, dont beaucoup en Afrique, en Asie et dans les îles du Pacifique. Mais cela se passe aussi en Australie. Servitude sexuelle, mariage imposé, travail forcé, 15 000 personnes concernées dans le pays. Et Seam the Freedom Hub, une association qui vient en aide aux victimes et qui se bat aussi pour la prise de conscience au sein des entreprises. L'esclavage moderne se niche dans les chaînes d'approvisionnement des produits, des services et nous ne le voyons pas nécessairement. L'esclavage des enfants dans les champs de coton d'Ouzbékistan a lui diminué ces dernières années, mais des centaines de détaillants continuent de boycotter le coton d'Ouzbékistan pour son recours au travail forcé des adultes.
Le 19e siècle n'est pas si loin dans l'Arctique.
Au Groenland, où Donald Trump persiste et signe, acheter la plus grande île au monde serait vraiment sympa pour les États-Unis. Le président américain confirme son intérêt d'acheter ce territoire au Danemark, une grosse transaction immobilière. Mais le Groenland n'est pas à vendre, titre en une au Danemark le Jyllands-Posten, alors que la première ministre du pays est en visite sur l'île. C'est une discussion absurde, dit Mette Frederiksen. La loi sur l'autonomie gouvernementale de 2009 stipule que les Groenlandais sont autonomes. Le Danemark ne peut de toute façon pas vendre le Groenland, même si sa valeur est à la hausse. Si l'île, qui est pourtant recouverte d'une calotte glaciaire de 3 km d'épaisseur, attise la convoitise de Trump, c'est en raison du réchauffement climatique, analyse El Mundo en Espagne. La glace fond à une vitesse impossible à imaginer, ouvrant un nouveau continent à l'activité humaine. Le résultat est une lutte entre les grandes puissances pour le contrôle d'un nouveau monde, comme on ne l'avait jamais vu depuis que les pays européens ont divisé l'Afrique entre 1880 et la Première Guerre mondiale. Ainsi poursuit le quotidien espagnol face à une réalité du 19e siècle. Trump a lancé une initiative du 19e siècle, l'achat du territoire d'un autre pays. Après tout, c'est comme cela que les États-Unis ont mis un pied en Arctique. En 1867, ils ont acquis l'Alaska à la Russie pour 100 millions de dollars. Le monde a beaucoup changé depuis, poursuit El Mundo. Et personne ne semble avoir pris au sérieux l'idée du président. Pourtant, l'idée d'acheter le Groenland n'est qu'un symptôme. Les États-Unis, la Russie, le Canada, la Finlande, la Suède, la Norvège et l'Islande déclenchent une guerre froide dans un continent arctique, paradoxalement de moins en moins froid. L'île de glace entre l'Europe et l'Amérique, riche en ressources naturelles, zone clé pour le transport maritime. Mais le Groenland ne fond pas devant les dollars de Trump. Ces noms disent les habitants comme Else, cité par le journal danois Berlingske. Vous ne pouvez simplement pas acheter une île ou un peuple, cela ressemble à quelque chose de l'ère de l'esclavage et du pouvoir colonial.
Merci beaucoup Jacqueline Ferdel pour cette revue de presse internationale et à demain.
À demain.